propose d'organiser les choses en, disons, en deux temps. Un premier temps où je propose une réflexion sur l'intitulé de la question, la contextualisation, soulever des questions que je propose de partager à partir des lectures que j'ai commencé à faire. Et puis après, dans un deuxième temps, une bibliographie que je vous proposerai et sur laquelle je dirai quelques mots. Je précise aussi que je n'ai pas encore fait non plus toutes les lectures que je présenterai dans la bibliographie et que pour les questions qui m'ont, comment dire, j'ai estimé qu'elles étaient intéressantes, je dois beaucoup quand même d'emblée à la préface de Calvino, qui de mon point de vue reste quelque chose de très important, et aussi, et peut-être j'espère que je n'en dépends pas trop, mais de deux textes aussi que j'ai trouvé très intéressants, de Gabriele Pedula, Una lieve colomba, hein, qui est le l'essai qu'il écrit comment dire, à l'anthologie de textes qu'il a publié en 2006, et aussi dans l'édition de référence de Fenoglio, l'essai qui, de mon point de vue, très important, qui est à la fin de cette édition, qui concerne Fenoglio, mais qui concerne aussi, comme Una lieve colomba, vraiment une problématisation déjà très importante de la question, et je m'y suis appuyé. Donc, pour commencer, voilà, je vous livre un peu des réflexions. Donc, on peut d'emblée remarquer qu'on est en présence de ce qu'on a l'habitude d'appeler une question civilisationnelle. Autrement dit, une question qui met en relation d'un côté un événement historique et de l'autre des auteurs et des œuvres qui s'inscrivent dans la période historique considérée et qui rendent compte aussi de cet événement. Alors, des fois, je ferai des petits excursus que j'essaie d'intégrer à mon discours général, donc là j'en fais un petit, sur le contexte historique pour dire que, évidemment, ce n'est pas l'agrégation d'italien une dissertation d'histoire, l'enjeu, ce n'est pas non plus une connaissance chronologique, événementielle de tout ce qu'a été la résistance, puisque la réflexion va porter, j'imagine, le sujet à la fin sur la représentation apportée par la langue et les mots à la réalité historique. Je pense qu'il est fondamental de connaître la réalité de ce que fut la résistance, ses enjeux socio-historiques, politiques, son historiographie. D'une part, au niveau des contenus, parce que la résistance constitue la thématique commune des œuvres qui sont au programme, et qu'elle est liée en cela aussi à une exigence commune, on y reviendra, de vérité par rapport à l'expérience vécue et au moment historique traversé. Et on retrouve dans les œuvres des évocations très précises de la vie quotidienne, d'objets, de modalités d'organisation, de groupes, etc. Donc je pense qu'il y a une importance à connaître le référent historique. Et d'autre part aussi, au niveau des auteurs, on y reviendra. Dans les textes, dans les choix narratifs ou même dans les choix esthétiques, il y a des interprétations et des visions politiques et idéologiques différentes de la résistance. Donc là, il y aura la bibliographie, mais je crois qu'il y a un ouvrage là aussi fondamental qui est bien sûr l'ouvrage de Claudio Pavone, hein, Una guerra civile, saggio storico sulla moralità nella resistenza, et sur comment dire, son concept des trois guerres, guerre patriotique, guerre civile et guerre de classe. Voilà. Je ne m'arrête pas plus, mais je crois que là aussi, pour le référent historique, on a déjà cet ouvrage fondamental. Je reprends alors le discours que j'étais en train de faire, hein, c'est le premier petit excursus. Donc, je disais une question de civilisation sur le modèle de la question des années 2008-2011 que j'avais eu le plaisir de traiter, les écrivains italiens et la Grande Guerre. Mais il y a là déjà, me semble-t-il, une différence qui me semble importante à souligner, peut-être une piste de réflexion. Dans l'intitulé, par exemple, sur la Grande Guerre, il y avait quand même encore une petite distance entre les écrivains italiens, hein, le sujet et l'objet, marqué par la coordination et la Grande Guerre. Là, on est letteratura della resistenza. Il y a comme un court-circuit, hein, une identification même dans la formule entre histoire et écriture, entre l'événement historique et sa représentation. Si la littérature de la résistance, c'est la littérature directement issue de la résistance. Avec d'ailleurs pour nos auteurs une dimension nécessairement autobiographique qu'on retrouve chez tous, même dans les textes les plus qui sembleraient peut-être s'en éloigner. Enfin, il y a toujours cette dimension autobiographique. De ce point de vue-là, Gabriele Pedula, justement, dont je parlais, me semble dire des choses intéressantes en reliant très fortement chiamata alla resistenza et chiamata alla letteratura, comme si les deux choses étaient véritablement une sorte de double choix qui engageait radicalement. On sait que là, cette littérature de résistance est multiple. Hein. Il y a des partisans qui n'ont pas vocation littéraire et qui, sans cela, n'auraient pas écrit. Des partigiani scrittori, des auteurs déjà affirmés comme Pavese et des auteurs, on y reviendra, qui entrent en littérature comme ils entrent en résistance. Calvino, Fenoglio et d'une certaine manière Meneghel. On peut s'interroger sur les motifs de l'écriture, la conscience d'avoir vécu une expérience hors du commun, le devoir, surtout le devoir moral de témoigner de la part de ceux qui ont survécu, de rassembler une mémoire de faits, de personnes, de préserver à travers le récit les sacrifices consentis, d'éviter les distorsions futures et les éventuelles contre-vérités. Dans ce double choix, ça c'est Gabriele Pedulla, dans son essai, il parle même de motifs sartriens, c'est-à-dire le choix que fait un homme plongé dans une situation exceptionnelle, un choix auquel il ne peut se dérober et qui relève à la fois d'une certaine manière de l'obligation et de la liberté du choix. Et même Pavese, qui est un de nos auteurs un peu paradoxal, puisque justement lui, la Casa in Collina, c'est en quoi il ne s'est pas engagé dans la résistance. Donc je cite Pedulla, la résistance représente la scelta che non si sceglie. Hein, ça me semble déjà aussi intéressant dans ce lien très fort, je redis, entre chiamata alla letteratura et chiamata alla resistenza. Comme s'il y avait là deux formes spéciales et fortement imbriquées, entrelacées de vocation. Hein, di vocazione, c'est aussi un terme de Gabriele Pedulla. Alors, plusieurs remarques. J'essaie d'abord d'interroger l'intitulé de la question. Et je vous fais part de ce que ça a évoqué pour moi. Donc déjà, l'intitulé est en italien. Alors, je ne sais pas si les gens qui ont proposé, le jury, la question, se sont posés toutes ces questions, j'en sais rien. Mais après, on a le sujet tel qu'il le propose et on s'interroge. Donc, « Letteratura della resistenza » en italien, entre guillemets. Donc, est-ce qu'il est question là de reprendre littéralement une expression qu'on retrouve très souvent dans les histoires littéraires? Expression construite et immédiatement identifiable de l'histoire littéraire italienne, qui désignerait, je ne sais pas, un courant, un mouvement, un ensemble d'œuvres, une période littéraire. Avec le risque, hein, ou le danger de rabattre schématiquement des œuvres ou des auteurs singuliers autour d'un genre, d'un thème, ou comme ici aussi, d'une période. Ou est-ce que c'est l'idée que, donc, d'une part, une tournure qui pourrait s'avérer réductrice, hein, si elle vise à englober des œuvres et des auteurs par ailleurs irréductibles dans quelque chose de monolithique, ou au contraire, une expression plus féconde, hein, si elle sous-entend une variété des représentations ou encore une unicité, c'est une autre idée, une unicité dans la variété. J'y reviendrai. Donc il me semble qu'il y a en tout cas une tension entre, d'un côté, la réduction à une étiquette englobante, schématique, surtout si on pense à la vulgate critique et esthétique qui a eu tendance peu à peu à réduire toute la littérature de la résistance à une poétique hégémonique, le néoréalisme, pour ne pas le citer. Donc là, je propose un petit excursus sur justement ce contexte culturel du néoréalisme, hein, c'est-à-dire que ce qui m'a marqué en préparant l'atelier, c'est que dans la plupart des histoires littéraires, la littérature de la résistance constitue au mieux un chapitre à l'intérieur d'une plus grande partie concernant le néoréalisme. Au pire, elle est considérée comme une sous-partie de la littérature néoréaliste et même de la littérature narrative néoréaliste. Donc, le contexte culturel aussi a fait, après les élections de 1948, là je passe rapidement, mais évidemment, la politique culturelle du Parti communiste, les théories de Lukács, les théories du rispecchiamento, les canons de la dénotation pure, etc., a envisagé la littérature de la résistance comme une littérature qui appartient nécessairement à ces canons de l'esthétique néoréaliste, au détriment d'une image plus humaine, plus variée, beaucoup plus complexe de la résistance et surtout de sa transposition littéraire. Donc là aussi, une des problématiques possibles, c'est aussi de sortir et de mettre en discussion ce carcan, hein, de remettre en cause la légitimité de ce lien exclusif ou même de cette subordination non justifiée de la littérature de la résistance à la littérature néoréaliste. et donc redonner justement à cette appellation toute la diversité de ses déclinaisons génériques, esthétiques, stylistiques, tout en rappelant l'importance décisive de ce moment à l'intérieur des parcours, des auteurs concernés, je vais y revenir. Bon, l'attention, il n'est pas évidemment question de nier qu'il existe un rapport entre littérature de la résistance et littérature néoraliste, et moments néoralistes. Mais ce qu'il faut mettre en cause, c'est l'identification pure et simple avec la littérature néoraliste. Et ne pas aplatir aussi la dimension réaliste à simplement quelque chose qui serait une esthétique naturaliste ou de pur reflet de l'événement historique. Pédoula rappelle que justement cette identification qui est devenue presque un dogme a deux origines selon lui. J'en ai parlé, la politique culturelle, notamment du Parti communiste, et le contexte littéraire et culturel des années de la fin des post-48 et des années 50, et aussi d'une certaine manière une interprétation particulière de la préface de Calvino, notamment lorsque Calvino fait tout un discours sur l'idée d'un livre qui serait né anonymement d'un climat général d'une époque, la voix anonyme d'une époque, et qui du coup effacerait un peu les inflexions singulières de chacun des auteurs. Bien. Donc il y avait, je disais, une tension, mais je pense que la déclinaison des auteurs telle qu'elle est proposée dans la question, justement, nous met à l'abri de cette interprétation très réductrice, notamment ne serait-ce que par la présence d'un auteur comme Meneghel, et qui, au contraire, la question au programme nous invite à la remettre en cause. Donc, d'un côté, tension entre réduction A, et de l'autre, tension avec indifférence A, c'est-à-dire négliger cette phase dans la production des auteurs, qui est envisagée souvent aussi, quand on lit les histoires littéraires, comme une sorte d'écho payé par les auteurs au climat d'une époque, alors qu'on pourra au contraire, me semble-t-il, s'interroger, que ce soit pour des auteurs déjà affirmés comme Pavese, et encore plus comme des auteurs, pour les auteurs qui entrent en littérature, comme ils sont entrés en résistance, Calvino, Fenoglio, et je disais d'une certaine manière aussi un peu Meneghel. L'importance au contraire fondamentale de ce moment, y compris dans leur poétique générale. Indifférence A qui fait qu'on ne voit pas non plus la spécificité d'un groupe d'œuvres dans leur variété même, dans la mesure où, en plus des singularités propres à chaque auteur, c'est peut-être aussi une façon radicalement nouvelle d'envisager la littérature liée à cette expérience matricielle pour chacun des auteurs. Là, je pense au regret qu'évoquait Franco Fortini, qui disait aujourd'hui, c'est en 1994, cette catégorie, la littérature de la résistance, en tant que partie d'une histoire de la littérature ou de la culture italienne, n'existe plus. Et d'une certaine manière, l'intitulé de la question lui redonne, j'allais dire, une sorte d'existence créative en proposant à la fois cinq auteurs très différents qu'elle inscrit malgré tout sous cette appellation, qui, si elle n'est pas prise en sens complètement réducteur, encourage à interroger justement cette variété aussi dans l'unicité, quoi. Enfin, à articuler singulier et collectif. Ça me semble aussi intéressant. La valeur des guillemets est peut-être là aussi, pour ça, c'est-à-dire une petite prise de distance peut-être aussi par rapport à une formulation sans cesse répétée, mais en réalité très problématique. L'absence d'article défini, donc là, l'intitulé du sujet semble aussi se détacher d'une volonté totalisante, et à raison, parce que, premièrement, la littérature de la résistance, ça n'est pas seulement la déclinaison qui en est faite à travers les œuvres au programme, qui sont des textes de fiction en prose, mais elle est bien plus vaste d'un point de vue générique. Les journaux clandestins, la poésie, les diaries, la mémoralistica, les nouvelles, les chansons, etc. Sur ça, je renvoie aux deux anthologies importantes, me semble-t-il. J'ai cité celle de Gabriele Pedula, Racconti della Resistenza, et celle aussi des années 70, plus ancienne, mais qui a été importante, de Giovanni Falaschi, dont on parlera, qu'on évoquera sans doute quand on parlera de la bibliographie. Donc, si tout ça n'est pas réducteur, quelles seraient les caractéristiques de cette littérature thématique, esthétique, stylistique? Pourquoi raconter la résistance et surtout comment raconter cette expérience de la résistance? Comment raconter, là aussi, est une question qui me semble importante. Et je vais essayer de retrouver où j'avais fait un petit excursus. Voilà ici. Comment raconter? C'est-à-dire, j'ai parlé au tout début d'exigence de vérité. C'est d'abord écrire pour ces auteurs impose avant tout quand même la fidélité à la vérité, la prudence, ne serait-ce que pour ne pas trahir et ne pas trahir aussi ceux qui ne sont plus là. D'où aussi une autre piste possible, un sentiment toujours d'inadéquation entre les faits et le mot. Donc il y a quand même ce questionnement très fort sur comment raconter. Dans la mesure où le silence n'est pas non plus une solution, il faut aussi transmettre une mémoire, tous les motifs de l'écriture que je rappelais. Et là aussi, peut-être un point problématique dans cette question de comment raconter, point problématique et en apparence contradictoire. D'un côté, l'élément commun, à savoir la nécessité d'écrire et l'exigence indépassable de dire la vérité, et de l'autre, des choix et des stratégies variés et multiples pour raconter de la manière la plus adéquate et aussi la plus personnelle cette expérience et dire sa vérité. Donc, autrement dit, construire aussi l'image d'une résistance vivante aux multiples facettes, radicalement singulière, mais qui s'ancre profondément dans une expérience commune et collective. On retrouve donc, je disais, unicité, singularité et écriture aussi, enfin, comment dire, noyau collectif, parce que ça existait aussi en tant que tel. Il y a eu une littérature de la résistance. À ce propos, donc voilà, on pourrait aussi dire, on ne pourrait pas parler de littérature de la résistance au pluriel, en désignant à la fois l'unité thématique, la résistance, mais tout en soulignant cette variété poétique, esthétique, stylistique, générique, narrative. Comme si chaque auteur, et je reviendrai sur cette idée qui me semble être une problématique intéressante, avait représenté, je disais, sa résistance, mais même comme vision du monde et comme poétique singulière. J'y reviendrai un peu plus tard. C'est-à-dire, enfin, un peu plus tard, je pose déjà un petit jalon quand je dis vision du monde, poétique singulière, l'idée que chaque auteur viendrait aussi construire autour de quelque chose qui pourrait être comme une sorte de genre, la littérature de la résistance, comment dire, oui, une poétique singulière, c'est-à-dire la différence qu'établit Gabriele Pedula entre eux, et ça me semble important et j'y reviendrai, représenter la résistance et représenter à travers la résistance. L'idée aussi, la différence entre la résistance comme fin de la représentation, de l'écriture, et la résistance, au contraire, comme moyen de l'écriture, à travers laquelle faire, comment dire, construire une poétique singulière. Voilà, donc, littérature de la résistance, voilà, encore une fois, un noyau commun et des mises en expression variées. Enfin, il y a aussi le terme littérature, puisque j'ai indiqué qu'il y avait bien autre chose que des auteurs, que des écrivains, une masse de journaux, de diaries, de mémoires, de chroniques, de chansons, écrites aussi par des gens qui n'avaient pas vocation et qui ne sont pas été des auteurs, mais donc interroger voilà, ce statut de littérature, c'est-à-dire de texte construit et savant, si on considère avec Maria Corti que le texte littéraire non seulement raconte, mais aussi pense l'expérience et la rend d'une certaine manière par cela toujours actuelle et universelle. Donc, raconter et penser l'expérience. Et puis s'interroger sur la préposition d'elle, puisque si la majuscule de la résistance renvoie très clairement à un moment historique fondamental identifié de l'histoire de l'Italie du XXe siècle, la préposition « della » peut avoir plusieurs sens qui ne sont pas exclusifs, bien au contraire. Une littérature née de la résistance, je l'évoquais, « dalla resistenza » finalement, une littérature qui résiste, qui s'oppose, una letteratura di resistenza, et une littérature dont l'objet est la résistance, una letteratura sulla resistenza. Je pense que dans le « della » il y a ces différentes aussi dimensions. Bien, ensuite, la question délimite aussi, par le choix des auteurs qui est fait, un arc chronologique. Mais avant, et ça, il me semble aussi très important, mais avant de venir à cet arc chronologique, je fais un petit excursus sur d'autres critères qui distinguent ou qui rassemblent certains auteurs et qui peuvent être fruits de prétexte ou matière à réflexion. Le critère géographique, qui est important aussi dans la mesure où nous sommes en présence d'une écriture dont la source est une expérience vécue et qui s'ancre dans un milieu où il y a une adhésion je dis, très forte à la véracité des faits qui sont rapportés, mais aussi des milieux qui sont représentés. Et le paysage, la terre, est quelque chose de très important. Je cite Calvino de la préface, « La resistenza rappresentò la fusione tra paesaggio e persone. » Et nos auteurs, Calvino, c'est les collines au-dessus de Gênes, Pavese, les collines de Turin ou des Langues, Fenoglio, on est dans les Langues aussi, Meneghello, Asiago, la montagne, il y a toute une variété de paysages aussi dans les Piccoli Maestri, et Renata Vigano, la Pevali di Comacchio. Donc, des critères géographiques. Là aussi, voir, piste de réflexion que je me lance et que je vous propose, hein, après vous, on fait ce qu'on veut, le paysage peut devenir aussi même vraiment, c'est certain, une catégorie même de la pensée et du monde. Hein, c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir. Le critère politique, avec des auteurs idéologiquement différents et même parfois opposés politiquement. Bon, il y a déjà la première séparation partisan-non-partisan, puisque, je le disais, il y a un des auteurs qui raconte plutôt pourquoi il n'a pas fait... Il n'a pas fait la résistance, c'est Pavese. Hein. Des auteurs qui sont plutôt proches du Parti communiste, hein, très clairement, Vigano et Calvino. Un azionista, Meneghello, hein, et Fenoglio, un badoliano. Pas de catholique, hein, mais on a Roma Città Aperta qui fait partie présentation de la résistance par un réalisateur catholique. Et comment dire, ces différences, ces critères, ces différences politiques ou idéologiques peuvent influer aussi sur la manière de représenter la résistance, hein, et notamment, par exemple, l'ennemi, hein, que ce soit le fasciste, l'allemand. Voilà, ça peut avoir son importance, d'où aussi l'importance de bien avoir en tête le référent historique. C'est aussi, chez certains des auteurs qui vont beaucoup insister sur ce que Gabriele Pedula appelle la réversibilità, hein, delle posizioni. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois celui qui tue, celui qui est tué, hein, au-delà d'une interprétation monolithique, hein, qui est plus celle peut-être du Parti communiste et des auteurs qui y sont liés. Au contraire, hein, notamment chez Fenoglio et chez Meneghello, cette idée de réversibilità des positions qui fait que leur représentation est beaucoup plus complexe, hein, et où on a vraiment, comment dire, la dimension de guerre civile qui est fortement présente dans leur texte. Là où Vigano, peut-être aussi Calvino, insiste plus sur les aspects positifs, hein, et monolithiques de la lutte. Les personnages aussi sont différents et s'expliquent peut-être aussi là aussi par des choix politiques. On a une femme du peuple, une paysanne non éduquée politiquement chez Vigano. L'idée aussi, on peut parler des femmes aussi, il y a une autrice et puis des auteurs hommes, parce que ça a son importance. Mais on retrouve aussi des femmes à l'intérieur des écrivains hommes, j'allais dire un Simonetta, un merveilleux portrait de femmes résistantes chez Meneghello, qui n'a rien à voir avec Agnès, oui. Simonetta, Kate, la sœur de Pine, Fulvia. Hein. un enfant chez Calvino, un professeur, un intellectuel chez Pavese, deux étudiants chez Fenoglio et chez Meneghel. Et toute une série aussi, pratiquement toutes les catégories sociales chez Meneghel. Voilà. Mais je reviens donc à l'arc chronologique, ça me semble être quelque chose d'important, hein, encore plus important, c'est-à-dire un arc chronologique au sein duquel on peut aussi, et ça influe nécessairement sur la façon de représenter la résistance, à deux périodes qu'on peut distinguer très clairement. La période de l'immédiate après-guerre, 1947-49, avec trois auteurs d'un côté, Calvino, Pavese et Vigano, et le début des années 60, 63-64, Fenoglio, Meneghel. Et d'une certaine manière, un peu aussi Calvino, puisqu'il écrit sa préface en 64. Deux moments très différents, pas simplement une différence chronologique, on est vraiment dans deux moments de l'histoire culturelle et littéraire italienne très différents, puisque les problématiques culturelles et littéraires du début des années 1960 sont d'une certaine manière la remise en cause radicale de la période précédente, avec des conséquences, je pense, sur la manière d'envisager la représentation de la résistance, et donc sur la letteratura della resistenza. On voit aussi, quand je disais l'hégémonie de la lecture, comment dire, un peu préfabriquée de la littérature de la résistance à identifier au moment néoraliste, ce qui fait que dans les chapitres de littérature de la résistance, jamais on a Meneghello, alors que bon, il entre de plein pied quand même dans cette dimension-là. Il y a aussi, entre les deux périodes, le problème important de la mémoire, hein, c'est-à-dire entre des écrivains, tous, il y a quand même la mémoire, personne, aucun des écrivains, même si Fenoglio, Meneghello écrivaient aussi à chaud, hein, Meneghello fait part de son taquino dans I Piccoli Maestri, mais aucun n'écrivait à chaud, mais il y a quand même plutôt à chaud dans les œuvres de l'immédiate après-guerre et avec plus de distance, notamment chez Meneghello, hein, avec un texte qui fonctionne vraiment sur l'écart entre le I au personnage du récit et le I au narrateur qui l'observe, qui observe ce personnage et qui commente. Et qui fait aussi du texte de Meneghel un texte à cheval, un peu entre memorialistica et roman. Et puis, il y a le critère générationnel intéressant aussi, sur lequel on peut réfléchir, de critère générationnel de la date de naissance, avec trois générations, Vigano 1900, la génération de Pavese et de Vittorini, même si enfin, Vittorini n'est pas au programme, et de Pavese, les années 10, 1908, Pavese, et les trois autres, les générations des années 20. Calvino, Fenoglio et Meneghello. Donc il y a au moins deux générations littéraires impliquées dans la lutte partisane. Ceux qui sont nés à la fin de la première décennie du XXe siècle et donc qui ont aussi débuté une carrière d'écrivain sous le fascisme et qui sont déjà des auteurs à la fin de la guerre, Pavese, et ceux qui sont nés au début des années 20 et pour qui il y a vraiment coïncidence entre résistance, formation et début littéraire. Et pour qui la résistance est encore plus une matrice à la fois biographique et littéraire. Calvino, Fenoglio, et un peu d'une certaine manière Meneghello, dans le sens que bon, c'est beaucoup plus tardif. C'est aussi son deuxième roman, mais débute presque aussi avec I Piccoli Maestri, d'une certaine manière. Et puis une petite exception, Renata Vigano, qui elle avait déjà un peu écrit dans les années 20, je crois, hein. Et qui a une sorte, alors là, c'est un peu Pédoula qui est très sévère avec elle, de seconde jeunesse littéraire avec son roman, L'Agnese va morire, et qui, d'après Pédoula, n'aurait peut-être jamais connu ce revival littéraire si elle n'avait pas participé à la résistance. Voilà. Donc, avoir 20 ans ou 30, 35 ans au sortir de la guerre et écrire sur la résistance, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, beaucoup de jeunes, et trois de nos auteurs, ou au moins deux, Fenoglio et Calvino, naissent à la vie publique vraiment comme scrittori combattenti et relient mémoire et reconstruction littéraire de la résistance avec leur propre entrée dans le monde adulte et avec leur propre entrée dans la littérature. Pédoula dit que d'où l'importance aussi, chez Meneghel, chez Calvino et chez Fenoglio, de la dimension de Bildungsroman qu'on peut retrouver aussi dans ces romans-là. Et d'une certaine manière, peut-être aussi chez Pavese, mais d'une autre manière. Donc, s'il y a des auteurs comme Pavese qui voient dans la guerre l'occasion d'un approfondissement de thèmes déjà présents dans une œuvre entamée, D'autres auteurs commencent avec la guerre à poser les bases poétiques d'une œuvre future. Mais en tout cas, on retrouve cette idée sur laquelle je reviendrai, de peut-être littérature de résistance, pour chacun des auteurs, comme noyau d'une poétique, noyau très fort, hein, d'une poétique, je disais, représentée à travers la résistance, c'est-à-dire coloniser la représentation de la résistance par ses propres thématiques, obsessions, poétiques et esthétiques. La présence d'un auteur comme Pavese peut être interrogée aussi sur le fait qu'il fait le lien, sur notre piste possible, avec la fin des années 30, hein, et du coup aussi ce qui commence à se mettre en place sur le débat sur le rallye, justement, la découverte de la littérature américaine, etc. Je cite Calvino de la préface. Non ci eravamo fatto una linea, ossia una specie di triangolo, i malavoglia, conversazione in Sicilia, paesi tuoi. Ou au contraire, s'interroger, c'est ce que fait Fallas, qui, sur problème plus d'une rupture, ou Fallas qui voit vraiment, comment dire, une rupture avec la résistance entre ce qui pouvait être une littérature de résistance et d'antifascisme d'avant la guerre, et au contraire, la naissance d'un langage nouveau, d'une expression, d'une nouvelle expérience humaine qui est qui est, comment dire, qui naît avec cette expérience de la résistance. Donc lui, il insiste plus sur une rupture et une autre filiation possible avec, ben justement, toute la masse des écrits, hein, de la résistance qui existe. Je veux dire, celles dont je parlais, les chroniques, les nouvelles. Hein, d'ailleurs, certains de nos auteurs sont aussi des auteurs de nouvelles, Calvino, Fenoglio, voilà. Donc il essaye de faire ce lien entre linguistique et stylistique, entre cette masse d'écrits de résistance ou de la résistance et les auteurs. On peut s'interroger, je passe un peu vite, sur le problème de nouvelles romanzo. Si, à partir de, comment dire, des deux points de départ et d'arrivée, Calvino, qui dans un article important de juillet 49, parle de la résistance qui aurait été manquée par les écrivains, et en 64 dit, le livre, ce roman, on l'a enfin, celui de Calvino, de Fenoglio, voilà, on peut dire qu'une saison a eu lieu, on a le roman de la résistance. Pourquoi? Bon, il y a eu L'Agnese va morire aussi, hein, qui a été considéré comme le roman un peu officiel, rhétorique officielle de la résistance, mais pourquoi s'interroger sur pourquoi cette recherche du roman de la résistance? Et pourquoi pas d'abord un roman, hein, mais plutôt la forme de la nouvelle qui a été plutôt hégémonique sur la manière de représenter la littérature de la résistance. Pédoula, de ce point de vue-là, donne, là aussi c'est une piste que je lance après l'avoir lu, hein, pour lui, l'impossibilité déjà d'utiliser la forme classique du roman historique parce que il y avait nécessairement déjà une origine autobiographique très forte qui empêchait justement, hein, le sorte de détachement entre ce qui est raconté et l'écrivain et comment dire, l'opposition entre ce sur quoi reposait le roman historique du XIXe siècle, c'est-à-dire d'un côté des fatti verosimili, vraisemblables, à l'intérieur d'un cadre historique et avec parfois le cantuccio manzonien de commentaires. Avec là, au contraire, une reconstruction de fatti veri, de faits vrais, hein, avec un commentaire sur les faits eux-mêmes. L'idée aussi d'exigence dont je parlais à la vérité, qui peut faire que le roman peut sembler un repoussoir, hein, pour toute tentative de superposer de manière trop massive l'invention romanesque à la vérité, au document. Avec le paradoxe que justement, celui qui va écrire le roman de la résistance, c'est Fenoglio, voilà, avec una questione privata, avec le risque de faire, enfin, pas faire disparaître, le paradoxe qu'on semble faire disparaître la résistance, mais au contraire, toute la résistance est là, voilà, donc s'interroger sur cette idée aussi. Autre problématique que je propose, c'est à partir de l'idée qu'on a chez Calvino, l'expression discorcio, de biais, hein, c'est-à-dire peut-être que nos auteurs entretiennent ce rapport différent avec la représentation de la résistance, c'est-à-dire que chacun ne la raconte pas de manière frontale, mais di scorcio, par un biais, et qui est bien souvent le biais qui est le biais de l'écrivain, et qui est ce biais qui donne sa dimension littéraire à l'écriture. Je voudrais aussi citer Maria Corti sur Meneghello qui dit « Meneghello guarda la realtà un po' strabicamente ». On retrouve cette même idée. « Come ogni vero scrittore, le sovraimprime la propria visione mentale, cioè la interpreta con propri pensieri e proprio stile ». Là, j'invite aussi à réfléchir sur cette idée de biais, di scorcio, strabicamente, et pour chaque auteur, quel serait ce biais ? Ou encore, il me semble retrouver un peu la même idée chez Pedula quand il parle de Fenoglio. Il parle de Fenoglio, mais je pense qu'on pourrait l'élargir. Hein, lorsqu'il fait une différence entre que Fenoglio, avec Una questione privata, se met à raconter nel fitto della resistenza. Donc, quel est pour chaque auteur ce fitto ? Ou, ça revient un peu à ce que j'évoquais, le passage entre raconter la resistenza come fine et come mezzo. Autre piste de réflexion possible, mais que j'ai déjà évoquée, la résistance, je disais, comme matrice ou noyau poétique. Bon, je lance l'idée, hein, pour l'instant, je ne vois pas trop non plus ce que ça pourrait vouloir dire, mais elle me semble intéressante. C'est-à-dire que, en quoi la résistance peut devenir un noyau poétique ? C'est-à-dire, dans les histoires littéraires, je disais, ça semble comme une sorte de passage, hein, il y a Calvino, bon, ben, il y a d'abord le Calvino néoraliste, de la résistance, puis après, il y a le vrai Calvino. Mais non, c'est-à-dire, est-ce que c'est seulement, oui, un point de départ, les ordres littéraires, à partir d'une expérience qui n'a pas pu être éludée en raison d'un contexte littéraire très fort, hein, Natalia Ginzburg qui dit, ben, on ne pouvait pas parler d'autre chose, ou est-ce que, et qui va laisser peu de traces dans l'œuvre future, ou est-ce qu'au contraire, on a déjà une matrice de cette œuvre dont on va retrouver toujours les traces par la suite et qui aide à construire justement une poétique et une esthétique. Je donne quelques exemples. Pavese, je disais, hein, auteur déjà avant la résistance, qui fait le choix de la non-résistance, mais dont la Casa in Collina est le récit de cette impossibilité du choix. Mais c'est une expérience aussi qui permet l'approfondissement de thématiques et de poétiques proprement pavésiennes, qu'on retrouve dans toute son œuvre. À l'inverse, il y a Calvino, on dit qu'il devient scrittore, premier livre avec l'expérience de la résistance, mais là aussi, c'est juste un passage, un banc d'essai, où c'est déjà une matrice pour cet auteur-là. Meneghello, je cite Maria Corti, qui dit, et je suis content de retrouver cette idée à exprimer là, où elle dit que a parer nostro legano i piccoli maestri alle altre opere di Meneghello, così da illuminare la circolazione organica interna fra le sue opere. Donc elle en parle à propos de Meneghello, mais là aussi, est-ce qu'on pourrait pas se poser la question pour chacun des auteurs ? Ça me semble quelque chose d'intéressant. Voilà, donc savoir si c'est la résistance, ça a été quoi ? Un banc d'essai, une phase transitoire, la matrice au contraire d'une œuvre future, etc. Voilà. C'est des idées là aussi que je lance. Autre idée que je lance, là très clairement aussi à la lecture de Pedula, qui cite, qui me semble vraiment intéressante, qui cite, Jean Starobinski, dans un article qui s'intitule, article de janvier 1943, qui s'intitule « Introduction à la poésie de l'événement ». Et Starobinski qui cite lui-même le poète résistant français Pierre Emmanuel. Et ça me semble intéressant parce que peut établir aussi la différence entre raconter l'histoire, dans le cas présent raconter la résistance, et intérioriser l'histoire, intérioriser la résistance. Je donne quelques citations de l'article de Starobinski. Voir l'histoire dans l'homme et non pas l'homme dans l'histoire. Ça me semble vraiment fondamental. Autrement dit, toujours je cite Starobinski, la responsabilité du poète est de conférer à l'événement historique la qualité d'un événement intérieur. Ou encore, la vraie poésie intériorise l'histoire. ça me semble intéressant aussi. On change de perspective. Pas simplement, je disais tout à l'heure, raconter, penser. Pas simplement raconter l'histoire, représenter la résistance, mais penser, intérioriser par le processus poétique, par le processus créatif, par le processus esthétique, intérioriser l'histoire. Autre piste aussi, voilà, l'idée de résistance comme j'allais dire, métaphore de l'existence, au sens où, ça m'est venu de la lecture de l'essai de Pédoula sur Fénolion. Donc ça concerne d'abord Fénolion, mais là aussi, possibilité de s'interroger, de l'élargir à certains de nos autres auteurs. L'idée que, comment dire, l'idée que, c'est dans la différence que j'établissais aussi entre la résistance comme fin, la résistance comme moyen. Hein, c'est-à-dire, pas représenter la résistance, je l'ai dit aussi, mais représenter à travers elle. Autrement dit, Pédoula qui dit coloniser la représentation de la résistance par ses propres fantasmes, obsessions créatrices. Et du coup, il dit de l'habiter entièrement. Ce serait l'idée, et du coup, d'en faire, d'une certaine manière, une allégorie de l'existence tout entière, une métaphore de la condition humaine, ce qui est, me semble-t-il, très très vrai chez Fénolion, mais je pense qu'on peut aussi l'interroger pour nos auteurs. Je lance juste la piste, je n'en sais pas plus, hein. Mais ça me semble aussi très, très intéressant. Pour Fénolion, Pédoula fait la comparaison avec Conrad, qui était un des auteurs importants pour Fénolion. Il disait la résistance a la même fonction que chez Conrad, l'océan, la mer, hein, comme une sorte de catégorie de la pensée, comme catégorie métaphorique de l'existence tout entière. Voilà. Voir si chacun... Je pense que c'est peut-être encore plus vrai chez Fénol, mais je pense que chez les autres aussi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé. Et je vous remercie de votre attention. Là, on peut... Alors, voilà, c'est juste c'est des pistes que je lance, des choses pour l'instant que j'ai lues et qui ont éveillé en moi, dans cette confrontation... ces idées qui me semblaient importantes à faire travailler sur la proposition qui était faite. Si vous voulez, là, on peut regarder la bibliographie. J'en ai fait deux. Une que j'ai appelée la essentielle, une un peu plus longue. On peut regarder celle qui est un peu plus longue, mais pas y passer beaucoup de temps, parce que, elle est susceptible aussi d'être complétée. Là, j'en ai cinq exemplaires papier que vous pouvez aussi prendre. J'indique peut-être les choses essentielles pour commencer à travailler la question. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Après, la bibliographie sera, je crois, sur le site de la SIES. Donc, voilà. Donc, j'ai réparti le contexte historique. Bon, il y a plusieurs œuvres, mais je crois, je l'ai dit, vous voyez, j'ai mis trois étoiles, Claudio Pavone. Hein, s'il y a d'abord un auteur par lequel commencer, qui doit être la référence pour le contexte historique, c'est bien Claudio. Oui, je t'en prie. Claudio Pavone. Après, et puis j'ai mis Benedetta Tobagi sous les conseils d'Elisa Santalena, je ne sais pas si elle est là, bon, sur la résistance des femmes, il y en a d'autres aussi, j'en ai mis un autre, mais bon, c'est peut-être pas nécessairement très pertinent pour les auteurs qu'on a, même si on a une autrice, hein, mais bon, dont le personnage est peut-être pas, bon, bref, voilà, donc là je vous invite à... Elle sera sur le site de la CES. Pour ce qui concerne le contexte culturel et littéraire, donc la littérature de la résistance, j'en ai parlé, je crois que fondamental, Andrea Bianchini, Francesca Lolli, là, ça c'est fondamental aussi, hein, les journées de Fano de 1995, avec toute une série d'articles, dont certains très directement sur nos auteurs, on les retrouve aussi dans la bibliographie concernant chacun des auteurs. Donc j'ai mis trois étoiles aussi. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bien, mais je dis pour une entrée en matière, et vraiment ce qui me semblait être les textes fondamentaux. Italo Calvino, j'en ai parlé, hein, donc la préface qui est toujours, je pense, un texte de référence, hein, essentiel, même encore aujourd'hui. Falaschi, hein, qui, dans les années 70, voilà, La Resistenza Armata nella Narrativa Italiana, qui est un des premiers essais, hein, qui a été une réflexion sur, bah, justement, les auteurs de la résistance. Donc ça, c'est un texte aussi important, avec un essai, me semble-t-il, très intéressant sur, sur Calvino. Il y a, disait Anna Frabetti, alors je n'ai pas mis d'étoile, mais pas, voilà, c'est quel, ouais, ça vient, non, non, mais pour dire que ça, c'est un ouvrage là, très récent, puisque nos collègues de Strasbourg et de Nancy s'occupent de cette question et ont publié cet ouvrage en 2023, mais comment dire, dans une perspective aussi qui est, comment dire, fouiller, approfondir justement cette variété d'auteurs et cette, voilà. Il est donc un ouvrage, voilà. Mario Sacenti, c'est un texte aussi encore important, encore intéressant sur tout l'ensemble de la littérature di resistenza, hein, les chroniques, les diaries, etc., pas simplement les œuvres littéraires. Les deux anthologies fondamentales, et notamment celle de Pedula, hein, avec l'essai donc, que j'ai cité, Una lieve et Colomba, que je crois que je remets par ailleurs, mais ça, pour moi, c'est l'ouvrage aussi... vraiment un ouvrage de référence absolue. Là, au contexte de la littérature après-guerre, c'était le lien avec le néoralisme. Je m'y passe, parce qu'on va pas tout... La biographie est immense, on ne va pas tout répéter. Donc là aussi, voilà, j'ai mis quelques ouvrages qui me semblaient particulièrement intéressants. Mais sinon, voilà. Et puis, sur chacun des auteurs. Sur chacun des auteurs, je pense qu'on a des auteurs dont la bibliographie est infinie. Hein, Calvino, Pavese... et même Meneghel, je pense que l'enjeu n'est pas de... personne n'y tiendrait d'ailleurs à être spécialiste de Calvino, de Pavese, et d'aller lire tout ça. J'ai mis, hein, de toute façon, les ouvrages de référence et tout ce qu'on peut, que vous pouvez trouver. Vous voyez, il y a plus de 100 pages de bibliographie, donc vous pouvez aller les repérer. Mais après, j'ai fait figurer celles qui me semblaient les plus importantes pour le lien avec notre question, avec les pages, où on peut trouver des pages importantes sur... le Calvino de la résistance, et surtout sur Il Sentiero dei Nidi di Ragno, sur chacune des œuvres. C'est ça qui me semble particulièrement intéressant, quoi. Voilà. Donc là aussi, je vous inviterai à la regarder. Donc, il y a Calvino. Voilà. Après, sur le Sentiero dei Nidi di Ragno, bon, tout n'est peut-être pas à lire. Moi, il y a des choses que j'ai lues, d'autres que je n'ai pas encore lues, mais que j'ai répertoriées, donc elles sont là. Et comme ça, chacun peut aussi aller les chercher, aller les lire et s'en faire une idée. Voilà. Donc... pareil pour Fenoglio. Voilà. Je ne sais pas ce qui circule. Elle circule sur Una questione privata. Hein, à chaque fois sur l'auteur et puis sur l'œuvre qui est au programme. Petite filmographie. Bon, il se trouve que le film des frères Taviani est vraiment intéressant. Hein, au contraire de I Piccoli Maestri et de Montaldo qui a fait un film sur L'Agnese va morire, et là c'est pas non plus de grandes œuvres, me semble-t-il, cinématographiques, mais bon, c'est toujours intéressant que d'aller les regarder. Voilà, donc pareil sur chacun des auteurs, avec l'auteur, les ouvrages de référence sur l'auteur en question et tout ce que j'ai pu trouver sur les livres en question, les livres qui sont au programme, quoi. Voilà. Rien de particulier après à dire, je vous laisserai après, elle sera sur le site de la SIES, donc la découvrir et vous en servir comme vous le souhaitez, quoi. Je précise quand même que très important, me semble-t-il, sont les textes qui figurent dans les éditions qui ont été proposées au programme. Elles sont toutes accompagnées de soit d'une préface, soit d'une introduction, soit même d'essais encore plus importants. Et tous sont des essais, me semble-t-il, vraiment très intéressants. Dans l'anthologie aussi de Pedula, j'ai parlé de son essai Una lieve et Colomba, mais il y a aussi 2-3 pages pour chacun des auteurs, et on retrouve Fenoglio, Calvino, Pavese, Vigano, 2-3 pages qu'il appelle Nota introduttiva, et qui sort complètement de tout ce qu'on relit à chaque fois sur les auteurs et qui ne sert à rien, mais lui, il le fait de manière très incisive, et en quelques mots, il pose aussi sur chacun des auteurs des problématiques vraiment, vraiment intéressantes en 2 pages. Donc là aussi, mais ça fait partie de cette anthologie qui, pour moi, est d'abord le livre de base et de référence, quoi. Voilà.